Heureux de vous voir aujourd'hui et le titre de mon message aujourd'hui c'est « Protège et avance ». On protège ce qui est précieux. Si je vous donne un exemple, aujourd'hui, si votre maison est en flammes, elle prend feu et vous avez 15 secondes pour sortir, quelle est la chose que vous prenez? Ne dites pas mon époux, mon épouse. Là. Quelle est la chose que vous dites, ok, si j'ai une chose à prendre, je prends celle-là. Je vous donne 10 secondes pour vous concerter là. Est-ce que je prends le chien, le chat, chérie? Toi, tu prends le chien, moi, je prends le chat. Si vous avez une seule chose à prendre, certains diront mon animal de compagnie, certains diront, ah non, c'est des documents importants, le passeport, comme ça je peux quand même voyager à Cuba, même si ma maison prend feu, avec l'assurance, je peux toucher une prime. Non, peut-être quelqu'un dirait, non, c'est mon ordinateur, j'ai toute ma vie dedans. Non, quelqu'un dirait, mon album photo de mariage. S'il y a une seule chose que j'aime là, c'est me regarder, je prendrais mon album photo de mariage. On a tous un petit peu des choses qu'on se dirait, ok, quelle serait la chose que je prendrais? La personne intelligente dirait, moi je prendrais un extincteur. C'est peut-être pas mal intelligent pour essayer de sauver tout le reste, mais il y a comme quelque chose qu'il faut qu'on protège ce qui est précieux. Maintenant, ma deuxième question, c'est jusqu'où iriez-vous pour protéger et sauver quelque chose auquel vous tenez? Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire? Est-ce que vous seriez prêt, par exemple, si vous êtes au bord du lac et puis vous jouez avec votre famille et puis à un moment donné, il y a comme le ticket du stationnement qui s'envole, oh! Et il est parti où la facture, vous aviez des affaires à rendre au magasin, puis là, elle s'en va et puis elle part dans le lac. Est-ce que vous seriez prêt à descendre dans le lac pour aller chercher la facture pour un 30$? Non. Par contre, si c'était le seul document d'héritage que vous aviez de votre oncle aux États-Unis qui voulait 3 millions et qui s'envole dans le lac, combien descendrait? J'ai vu une vidéo il y a quelques temps, c'est un garçon qui utilise son drone pour la première fois. Un drone, c'est comme un petit hélicoptère portatif avec une caméra et puis il peut aller n'importe où. Maintenant, c'est réglementé partout, tu n'as plus le droit de faire voler ton drone à part chez toi. Là. Mais il y a vraiment quelque chose où on voit le garçon, on va voir la vidéo dans un instant, tu peux même la partir maintenant. On le voit avec toute sa famille, il est en train de filmer un petit peu les aléas. Et puis, si tu peux l'avancer, on voit là, le drone commence à tomber. Et là, il se dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, il faut que j'aille me mouiller parce que si jamais il tombe, mon drone meurt. Donc là, on le voit. Il est prêt. Oh, là, il a enfin pris son drone et puis il se dit, si on peut mettre le son un petit peu, on le voit là. Il est tout heureux, il se dit, enfin, mon drone qui m'a coûté plusieurs centaines de dollars, je l'ai sauvé. Et alors que, on va voir la photo juste après, le avant et après, sa tête avant et sa tête après, si on peut revenir au message. On voit sa tête avant, oh non, il faut vraiment pas que je le perde. Et sa tête juste après en disant, oh, enfin, je l'ai sauvé. Il y a quand même un côté où, est-ce que, jusqu'où tu serais prêt à protéger ce que tu penses pour toi, être quelque chose qui est précieux? La Bible nous dit de protéger certaines choses qui sont très précieuses. Dans Proverbes 4, 23, la Bible nous dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Le cœur en hébreu, le terme c'est « lab », « lab ». Et qui veut dire littéralement l'âme, l'esprit, là où sont prises les résolutions, là où il y a une détermination, il y a quelque chose de fort. Quand on parle de protège ton cœur, ce n'est pas juste oh, protège tes émotions. Non, protège ce que tu as de plus précieux, parce que si ton cœur est abîmé, ta vie va être sombre. Par contre, si ton cœur, tu le protèges parce que tu sais que c'est quelque chose qui est très vulnérable, très fragile, mais si ton cœur va bien, ta vie va mieux. Et on sait, nous, en tant que chrétiens, et puis si vous êtes là pour la première fois, on est heureux que vous soyez avec nous, et puis vous allez rapidement comprendre ce qui est important dans notre vie. Ce n'est pas seulement les choses extérieures. Ma maison prend feu, oh, je prendrai ça. Non, la chose la plus importante que nous avons, c'est notre cœur. Et Dieu, quand il vient nous sauver, il vient nous donner un nouveau cœur, une régénération. Notre cœur de pierre est changé en cœur de chair. Il y a quelque chose qu'il nous donne un nouveau cœur. En fait, c'est le cœur, spirituellement, c'est là où nous avons une communion avec Dieu. Corps, âme et esprit, tout est intégré ensemble. Mais il y a vraiment quelque chose de spirituel quand on dit « garde ton cœur », c'est « garde ce qui fait de toi qui tu es ». Et pour les chrétiens, c'est notre relation avec Dieu, notre communion avec Dieu. Et le proverbe nous dit « garde d'un côté où protège-le avec une garde de soldat. Il y a vraiment quelque chose où protège-le à tout prix. » Malheureusement, des fois, je parle avec des chrétiens et ils m'expliquent toute leur passion dans la vie. Et si je leur pose la question, si jamais ton drone, que toi, tu es un fou de drone, si jamais à un moment donné, il tombait dans l'eau, qu'est-ce que tu serais prêt à faire? Oh, je me mouillerais, même si l'eau est à -5, je plonge, je saute. Mais parfois, ils ne voient pas que leur relation avec Dieu est en train de se détériorer. Ils ne font rien pour le sauver. Parfois, on a nos yeux pour protéger ce qui est, entre guillemets, précieux pour nous, mais on ne voit pas que la chose la plus précieuse, c'est notre relation avec Dieu. C'est notre vie spirituelle. Aujourd'hui, j'aimerais plaider pour que chacun d'entre nous ici, nous puissions revenir à comprendre que ce qu'on doit protéger, c'est ce qu'on a de plus précieux. C'est notre cœur, notre relation avec Dieu. Et il y a un homme dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui a pris pour acquis ce que Dieu lui avait donné. Et il n'a pas protégé la chose précieuse qu'il avait. Il l'a pris pour acquis et il a comme quasiment failli la perdre, en fait. On va regarder, cet homme s'appelle Samson. On voit son histoire dans le livre des Juges. Et en fait, dans le livre des Juges, c'est l'histoire qui prend le plus de place. C'est plusieurs chapitres de la vie de Samson. Le livre des Juges termine avec sa vie. Pour vous donner le contexte, Samson a vécu peut-être 10 siècles avant Jésus-Christ. Donc c'est vraiment une histoire ancienne, mais elle est toujours aujourd'hui pertinente pour nous. Il est né en étant consacré à Dieu. Il y a eu quelque chose de miraculeux. L'ange de l'Éternel arrive à ses parents et puis il lui dit « Voici, votre fils va naître et il va être consacré à Dieu. » Il va être destiné à de grandes choses pour Dieu. Il aura un don spécial, c'est qu'il aura une force incroyable. Dans le temps des juges, il y avait des combats entre des armées, il y avait des territoires à prendre. Et le don que Samson a reçu, c'est une force incroyable pour être un guerrier incroyable. Sa force résidait dans ses cheveux. Le rasoir ne devait pas passer sur sa tête parce que s'il enlevait ses cheveux, il perdait sa force. Dieu avait comme donné un don et une manière, entre guillemets, contextuelle à dire « Voici, dans sa force résidera dans les tresses qu'il a sur sa tête. » Alors cet homme-là était incroyablement fort, mais en prenant cette force pour lui, il a pris avec un orgueil incroyable et il a commencé à vivre une vie rock'n'roll. Si vous connaissez un petit peu la vie de Samson, c'est comme quelqu'un qui était indomptable, on va dire. Et même lui n'arrivait pas à dompter ses instincts avec les conquêtes, avec les femmes et tout ça. Et puis avec un orgueil, à un moment donné, il va comme faire des paris avec des gens et puis ensuite il va aller tuer des gens. Il y avait vraiment quelque chose de fort parce que, alors que Dieu l'avait destiné à quelque chose de particulier, avec un don particulier, lui, il a comme vécu un côté, OK, le don est important pour moi. Au lieu de le vivre seulement exclusivement pour Dieu, il l'a pris pour acquis et il s'est passé quelque chose d'incroyable. Parce qu'alors qu'il conquit une femme, elle s'appelle Delila, c'était une femme, entre guillemets, en mission pour un autre peuple, un peuple ennemi, les Philistins. Et alors qu'elle a pour mission de faire tomber cet homme-là, parce que si on fait tomber Samson, on fait tomber tout le peuple. Il y avait comme un côté de victoire avec cet homme-là. Elle veut savoir d'où vient sa force. Et alors qu'elle lui demande, d'où vient ta force, d'où vient ta force? Et alors que lui, il joue avec elle et lui dit, ma force vient de là. Et puis si vous faites ça, je perdrai ma force. Et à chaque fois, ils essaient, et puis il n'y a rien qui arrive. Et elle commence à perdre patience, mais elle se dit, j'ai une mission, il faut que je le fasse tomber cet homme-là. Alors après 3 tentatives ratées, elle revient à la charge. Et on va regarder le texte aujourd'hui, Juges chapitre 16, versets 15 à 21. On le lit ensemble. Dalila, elle lui dit, comment peux-tu dire à toi, Samson, « Je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi. Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et que tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'est pas passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. » Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delila, voyant qu'il avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Il y avait un contrat qui était là. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa ses 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Et elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit, avec un grand orgueil, « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Un texte incroyable parce que alors que c'est comme... Il était destiné à quelque chose de grand. Il avait reçu un don de Dieu qui était incroyable. Il n'a pas protégé la chose qui était précieuse que Dieu lui avait demandé de protéger. Et alors qu'il ne l'a pas protégé, il s'est fait voler. C'est important parce que le texte, dans la Bible, il n'y a aucun mot qui est là par hasard. Et dans ce texte-là, dans ces quelques versets, il y a 4 fois la mention « Il lui ouvrit tout son cœur, tout son cœur ». Il y a comme le cœur qui revient, vous l'avez remarqué ? Qui est un petit peu attentif ? Non ? Ok. Il y a comme quelque chose qui est fort, parce que s'il y a une répétition dans la Bible, c'est que l'auteur est en train de te dire « Ouvre les yeux, ouvre les oreilles, il y a quelque chose que tu dois comprendre ». Même si cette tresse était importante et c'était ça la source de sa force, en fait, c'était son cœur qui pouvait être corrompu. Qui pouvait être volé. À qui ouvres-tu ton cœur, toi, en ce moment ? Qui est ton confident ? À qui tu déverses ton cœur, tu ouvres toute ta vie, mais qu'en fait, peut-être que cette personne est mal intentionnée, ou peut-être que cette personne écoute en ce moment, mais un jour, elle va se retourner contre toi. Et puis là, je ne suis pas en train de parler de « faites attention, n'ayez pas d'amis ». Au contraire, la Bible nous dit vraiment qu'un ami est comme plus qu'un frère dans des temps difficiles. Il y a vraiment, on a besoin de marcher les uns avec les autres. Ensemble, nous sommes plus forts. Mais attention à qui tu ouvres tout ton cœur. Attention à ce que tu fais avec ce qui est le plus précieux. Parfois, on a des mauvaises relations et on pense qu'on est en sécurité avec ces gens-là. Mais en fait, il y a des choses que Dieu nous demande de partager avec certaines personnes, d'autres avec des personnes. C'est même pour ça qu'on a l'Église. L'Église est là pour que nous puissions marcher ensemble. Tous pour un seul et même but, pas pour se retourner les uns contre les autres. Au contraire. Et si en ce moment, vous avez besoin de partager quelque chose et vous ne savez pas à qui vous pouvez le partager, vous pouvez venir voir l'équipe pastorale, nous sommes là, nous allons vous écouter, nous allons vous conseiller, prier avec vous. Et je crois réellement que Dieu donne le conseil au travers de l'église locale. Amen. Mais alors que là, Samson est en train de parler, en train d'ouvrir son cœur, il y a quelque chose de fort. J'aime la terminologie, c'est que Delida a endormi Samson sur ses genoux. Il était bien, il était confortable. Alors qu'il était appelé à être quelqu'un qui allait être un guerrier, qui allait sauver son peuple, qui allait protéger quelque chose incroyablement précieux, il était là en train d'être endormi sur les genoux d'un ennemi. Est-ce qu'en ce moment, tu es en train d'être endormi sur les genoux d'un ennemi ? Est-ce que tu as pris ça tellement relax que ta vie chrétienne, tu te dis « Non, c'est bon, je m'en tirerai comme les prochaines fois, comme les autres fois, comme à chaque fois j'arrive à m'en sortir. » Comme à chaque fois j'arrive le dimanche et puis peu importe la semaine que j'ai vécue, je suis comme « Oh Seigneur, merci pour ton pardon. » Merci pour ta grâce. Et pardon, parce que la semaine prochaine, je vais recommencer, mais dimanche prochain, je serai là. Et des fois, on vit comme, OK, un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans. De toute façon, je reviens dedans, je reviens. Comme toutes les fois, je m'en sortirai. Ne prenons jamais pour acquis la grâce de Dieu, parce que c'est un cadeau incroyablement inestimable. Mais j'en connais plusieurs qui, à force de jouer comme ça, à un moment donné, sont tombés dans le piège. Et là, je ne vous parle pas de perdre son salut ou pas. Non, je ne suis pas dans cette doctrine-là. Je peux juste te dire que même si l'ennemi ne peut pas te voler ton salut, il va essayer de te voler ton appel, ta passion. Il va essayer de t'endormir sur ses genoux et puis à un moment donné, il va te couper ta relation avec Dieu et tu vas perdre toute ta force. Il y a comme quelque chose que nous, en tant qu'Église, nous devons, dans cette saison où tout reprend, tout revient, où peut-être la prospérité financière en ce moment, tu te dis « Waouh, man, mon entreprise fonctionne bien, tout va bien, tout va bien. » Il y a quelque chose comme ça. Et puis là, tu commences à prendre un petit peu moins de passion pour protéger ce que tu as de plus précieux. Puis en ce moment, tu es peut-être en train de t'écarter. Je plaide avec tout le monde ici. Reviens, protège ton cœur. Parce que là découlent toutes les sources de la vie. Tout ce qui est bon vient de ton cœur et Dieu veut le renouveler aujourd'hui. Alors si en ce moment tu te dis, je suis pas dans une position où mon cœur est protégé, où il a une bonne place avec Dieu, avec une communion renouvelée, je t'encourage aujourd'hui à revenir, tu es à la bonne place ici. Peu importe où tu es spirituellement, tu es à la bonne place parce que là où Dieu est, là il y a l'espoir, là il y a la liberté, là il y a la restauration. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui nous renouvelle, qui nous donne tout ce qu'on a besoin? Le texte dit chaque jour, elle était là à le tourmenter. Son âme s'impatienta jusqu'à la mort, c'est pour ça. Avec une impatience, parce que là, elle revenait chaque jour, tous les jours, elle était là. Ça nous dit que notre ennemi à nous, parce que vous le savez, on vit dans un combat spirituel. On est dans une église, on sait qu'on est dans un côté où on croit au monde spirituel, mais si on croit au monde spirituel que Dieu est puissant, il y a un ennemi aussi. Dieu est tout puissant, Dieu est incommensurablement beaucoup plus puissant que ce qu'on pourrait même imaginer. Et même le pire de nos ennemis, même spirituel, ne peut même pas rivaliser avec Dieu. Par contre, cet ennemi-là est plus fort que notre chair à nous. Et si nous ne sommes pas renouvelés, et si nous ne combattons pas le bon combat spirituel que Dieu nous amène, il est plus fort que nous. Mais parfois, on regarde ça en disant « Non, mais t'inquiète pas. » Chaque jour, elle était là à le tourmenter et son âme s'impatienta jusqu'à la mort. Alors là, il commença à lui livrer son secret. L'ennemi de notre âme, la Bible le dit, hein. Il est rusé, intelligent, vicieux, mais il est également patient et il est persévérant. Il va venir tous les jours s'il faut qu'il vienne tous les jours. Et jusqu'à temps qu'il va trouver une brèche, comme un lion qui rôde et qui regarde sur qui je vais m'abattre. L'ennemi de notre âme, Satan, le diable, le combat spirituel que le chrétien a à vivre, c'est de protéger son cœur dans une place où Dieu seul peut venir le renouveler, peut venir le confronter, peut venir le vider et le remplir de son esprit. Il y a vraiment quelque chose que nous devons protéger, ce que nous avons de plus précieux. Nous sommes dans un combat spirituel et c'est pour ça que nous avons besoin de prendre toutes les armes spirituelles que Dieu nous a données. Je veux qu'on lise ensemble Éphésiens 6. Les plus anciens chrétiens diront, oh, Éphésiens 6, c'est les armes du croyant, l'armure de Dieu. Exactement, on va le lire ensemble. Parce que si nous sommes dans un combat, Dieu ne nous a pas laissés sans armes. Il nous a envoyés dans une mission en disant, je t'envoie et je te donne des armes pour que tu puisses vaincre l'ennemi. Combien disent Amen? Éphésiens 6, 10 à 18, on le lit ensemble. C'est Paul qui parle à son église, à Éphèse. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui, ça fait du monde. C'est pour ça que parfois on dit comme, oh oui, notre ennemi. Non, il y a des puissances spirituelles qui veulent la mort de l'Église, la mort des chrétiens, qui veulent que chaque chrétien soit tellement faible qu'on n'a même pas à s'en charger, il n'a aucune force et aucune autorité. Mais quand l'Église prendra conscience que nous avons toutes les armes que Dieu nous a données pour faire face aux ruses et marcher avec une autorité, avec une victoire, dans la victoire de Christ, non pas pour notre gloire, mais pour la sienne, là, on va reprendre les armes comme une armée qui va se lever en disant « Il n'y a plus personne qui nous fera reculer ni trembler, nous avancerons dans le nom de Jésus et par la puissance de Dieu. » Verset 13, c'est pourquoi il encourage l'Église. « Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Si tu es en train en ce moment d'être dans un combat, il dit « Patiente, résiste parce que tu vas voir après avoir tout surmonté. » Verset 14, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Amen. Parfois, on peut regarder ça et puis on peut dire, waouh, ok, une armure et tout ça, il y a des mots, il y a un concept. Oh, c'est un petit peu flou. Aujourd'hui, je veux vraiment clarifier le flou. Parce qu'en étudiant l'armure du croyant, il y a vraiment quelque chose de fort que Dieu veut se révéler à nous. Peut-être qu'ils ne sommes pas encore armés pour le combat. Et vous le savez, hein, le combat est là. Que tu te battes ou pas, le combat est là. Maintenant, Dieu ne t'appelle pas à rester en arrière et assis et à attendre justement de voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Non, Dieu te dit, je t'ai appelé, lève-toi, tu es enfant de Dieu, tu es dans un combat, tu es dans le royaume de Dieu. Et qui est dans le royaume de Dieu est appelé à se lever, à être un guerrier spirituel, non pas avec des armes terrestres ou des guns, non, mais avec des armes spirituelles qui sont bien plus puissantes que tout ce qu'on pourrait inventer ici dans ce monde et à avancer pour le bien de ton âme, pour le bien de ta famille, pour protéger ce que tu as le plus précieux, pour avancer et voir que l'ennemi qui veut te faire tomber, non, c'est toi qui vas avancer, c'est lui qui va trembler. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui nous donne l'autorité et la victoire? Paul, quand il écrit Éphésiens, il est en prison. En prison à Rome, complètement dans une cellule au fond. Il est comme à l'endroit où il peut être le moins un guerrier. Mais par l'Esprit de Dieu, il dit, peu importe où je suis, peu importe ma condition en ce moment, la victoire est en Christ et je vais proclamer. Et alors que Paul est en train d'écrire ça, c'est l'Esprit de Dieu qui vient lui donner des paroles pour l'Église dans l'humanité. 2000 ans après, on en parle encore aujourd'hui et je vous le dis, Dieu va vous parler parce qu'il m'a réveillé encore cette semaine quand je revenais dans ce texte. Il faut que nous combattions. Revêt l'équipement. Et il y a une photo d'un soldat romain. En fait, Paul, quand il est en train d'écrire, il a des soldats romains partout. Alors lui, l'idée qu'il voit, c'est un soldat romain qui lui combat pour une mission. Et il dit, je vais prendre cette armure-là et je vais l'amener à une armure spirituelle. Alors c'est pour ça qu'il parle d'une armure romaine. Aujourd'hui, on ne voit plus personne comme ça. On ne voit plus personne avec une armure, mais vous allez comprendre exactement les choses qui sont en train d'être apprises. Il parle de la ceinture de vérité. La ceinture de vérité, c'est important. Ce n'est pas juste, aujourd'hui, on porte une ceinture, oui, pour tenir nos jeans, mais en fait, des fois, c'est comme un peu plus un objet de style. Tu n'aurais pas forcément besoin d'une ceinture, mais tu veux une belle boucle, Dolce & Gabbana, tu sais, tu veux comme... Non, en ce temps-là, là, ce n'était pas juste beau, non, c'était très, très important. La ceinture de vérité, elle soutenait toute l'armure. En fait, elle soutenait le dos du soldat. Imaginez, toute l'armure là est prise, il y a un ancrage sur la ceinture. C'était énorme, c'était super lourd. S'il y a des pompiers qui sont là aujourd'hui avec nous, vous le savez, quand vous portez un équipement, c'est hyper lourd et c'est travaillé pour que ça soit super léger. En ce temps-là, les matériaux, c'était vraiment, vraiment lourd. La ceinture, à ce moment-là, les aidait à tenir droit, malgré le poids qu'ils portaient. Aujourd'hui, pour nous, la ceinture de la vérité, c'est que Christ est la vérité. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». La vérité, si tu la mets à ta ceinture, elle va faire que ta vie va pouvoir avancer. Et malgré le poids et tout ce qu'on doit porter et tout ça, tu vas tenir droit devant Dieu. Tu vas tenir droit devant tes adversaires. Tu ne seras pas le dos courbé. Non, la ceinture, comme une ceinture d'haltérophilie, vous avez déjà vu ? Ceux qui doivent mettre ça pour lever des charges incroyables, ça pour garder la stature. Est-ce qu'en ce moment, tu vis dans le mensonge ? Dieu te dit, revêt la ceinture de vérité. Parce que si tu vis dans la vérité, il n'y a plus rien qui pourra t'assombrir ou te faire pencher. Non, la ceinture de vérité te tiendra droit. Marche avec la vérité qui est Christ devant toi. Est-ce que ton témoignage est vrai en ce moment ? Ou est-ce que tu joues sur une phase de chrétien le dimanche, mais la semaine, tu es complètement différent ? Non, marche dans la vérité. Mets une ceinture et chaque jour de ta vie, revêt la ceinture et marche dans une nouveauté de vie. La ceinture, à cette époque-là, tenait la dignité du soldat. C'est-à-dire que la ceinture tenait ce qui couvre, ce qui doit être couvert. Je ne vous ferai pas de dessin, là, mais il y a comme quelque chose que, si tu ne veux pas qu'on voit tes caleçons, mets ta ceinture. À ce moment-là, la ceinture était très importante. Elle tenait tout ce qui est en bas. Aujourd'hui, un chrétien qui ne marche pas avec une ceinture de vérité, sa dignité est en jeu. Nous devons mettre une ceinture pour dire... Peu importe ce qui se passe dans ma vie, peu importe les tentations, la vérité me tient droit. La vérité, c'est Christ. J'avance et c'est elle qui soutient toute ma vie qui est droite. Avances-tu droit ou courbé ? Revêt la ceinture de vérité. La deuxième chose qu'il nous dit, c'est revêt la cuirasse de la justice. La cuirasse, c'était ce qui était devant ici. La cuirasse, en fait, protège les organes vitaux. Le cœur, les poumons, les reins, le foie, tout ce qui est là devant, c'est la cuirasse qui le protège. Il dit entre guillemets en ce moment, il faut que tu puisses mettre la justice devant toi pour être protégé et pour pouvoir avancer. L'ennemi veut tuer ta vie, veut essayer d'envoyer une seule flèche dans un de tes organes vitaux et puis hop, là c'est fini. Un soldat qui se prenait une flèche en plein cœur, c'était fini. Vous avez compris, je ne vous ferai pas de dessin, il était fini. Alors la cuirasse de vérité, la cuirasse de justice, pardon, est en train de le protéger complètement. La justification en Christ, ce n'est pas notre vie en avancée, la justice de Christ qui nous a été imputée. Nous sommes justifiés par l'œuvre de Christ à la croix. L'armure du croyant est tellement incroyable parce que c'est Christ qui est ma vie. En dessous là, c'est tout ce qui est Christ, ma vie est en Christ, je suis mort à moi-même et vivant pour Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que Jésus est ta vie? Est-ce que c'est lui qui détient tout, ton cœur, tout ce qui est vital en ce moment? Est-ce que c'est à lui? Est-ce que c'est lui qui protège par sa justice tout ce que tu es? Parfois, tu peux avoir des pensées en disant, est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que je reviens à être, je suis justifié en Jésus-Christ? Et il n'y a personne qui peut essayer de me dire que je ne suis pas enfant de Dieu. Non, l'Esprit témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Il y a une puissance là, la cuirasse de la justice. Ensuite, il dit, revêtez le casque du salut. Le casque, comme vous le savez, protège la tête. La tête, c'est le poste de commandement. Il y a un côté où il protège nos pensées. Quand il voyait le soldat avec un casque, il disait, ouais, s'il y a une flèche qui arrive dans sa tête, sa tête est protégée. Il y a quelque chose que quand les pensées, quand l'ennemi essaye de t'envoyer des mensonges, quand l'ennemi essaye de te rappeler ton passé, il va essayer de jouer dans ta tête. Quelqu'un dit, la plupart des batailles de la vie sont soit gagnées ou perdues dans les pensées. Des fois, il y a quelqu'un qui peut avoir la victoire en Christ, mais que dans ses pensées, il est déjà perdant. Il ne s'élèvera même pas pour le combat. Alors que la victoire est déjà là. Ça protège ta tête, ça protège tes pensées. C'est pour ça que nous devons amener chaque jour toutes nos pensées captives en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui en ce moment est en train de rouler dans ta tête que tu ne devrais pas laisser dans ta tête? Quelles sont les tentations qui sont envoyées, puis que toi, tu restes dans ce fantasme-là, au lieu de dire non, je remets le casque du salut, et puis il n'y a plus rien qui peut entrer. Quelqu'un me dit, tu ne peux pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de toi, mais tu peux les empêcher de faire leur nid sur ta tête. C'est-à-dire que les tentations, les mauvaises pensées, les mensonges, elles seront là tous les jours de ta vie jusqu'à la fin. Nous sommes dans un monde déchu. Par contre, Dieu nous dit, je t'ai donné les armes. Éphésiens 6, remets le casque du salut. Et si tu mets le casque sur ta tête, sur tes pensées, il n'y a rien que l'ennemi pourra envoyer qui va percer le casque du salut. Combien sont reconnaissants pour ça? Le casque protégeait aussi les oreilles, les yeux. Il y avait, ça dépend des casques, mais il y a vraiment quelque chose où même il y avait une ligne de fer ici pour faire que tout est protégé. Qu'est-ce qui protège tes oreilles? Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment que tu ne devrais pas écouter? Qu'est-ce que tu regardes que tu ne devrais pas regarder? Parce que ce qui rentre, ce que tu laisses rentrer, c'est quelque chose qui peut pourrir ce qui est dans ta tête. Je vous le dis, hein, moi je suis très aujourd'hui avec Netflix et tout ça, on est sur tous les réseaux sociaux. Mais il faut qu'on soit intentionnel, Sophie et moi, à dire, est-ce qu'on regarde cette série-là ou on ne regarde pas ce film-là? Et je vous le dis, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut regarder sur Netflix. Réellement. Parce que tu commences une série, tu te dis, ah, c'est cool, c'est bien, et puis à un moment donné, ça dérive. Tu dis, wow, est-ce que je vais continuer à ça? Non, il faut que je protège ce qui rentre dans mes pensées, ce qui rentre dans mon cerveau, parce que ça, c'est le poste de commandement. En ce moment, il faut que nous soyons prêts à combattre et à mettre chaque jour, Seigneur, donne-moi de mettre le casque du salut pour protéger le poste de commandement. La quatrième chose, c'est qu'il dit, revêtez le bouclier de la foi, prenez-le. Ça protège tout le reste. On le voit, c'était des grands boucliers. C'était pas des petits boucliers, c'était des grands boucliers parce que quand tu le mettais devant, ça protégeait tout le reste de ce qui était en avant pour éteindre les traits enflammés du diable. C'est ce qui est en première ligne. Ta foi, c'est ta dépendance à Dieu. C'est de croire que Dieu veut le meilleur pour toi. C'est que même si je vois rien en ce moment, la foi en Christ fait que même si je ne vois pas, je sais que Dieu est là. Et même si je ne ressens rien, je sais que Dieu est devant moi, qu'il marche et que Christ marche devant moi et j'ai juste à le suivre. Oui, mais en ce moment, je ne vois pas où je vais. Peu importe, si Dieu est devant toi, tu n'as aucune question à te poser. Si tu sais que tu marches selon sa parole, si tu sais que tu prends ta vie et que tu dis, Seigneur, je veux juste être proche de toi, que tu sentes ou que tu ne sentes pas en ce moment, tu continues à marcher parce que la foi va être ce qui est devant toi et qui protège tout ton corps. Ta dépendance à Dieu. La cinquième chose qu'il dit, c'est prenez les chaussures du zèle. L'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de l'évangile de paix, il y a comme un côté de disposition que tu mets à tes pieds. C'est fort parce que dans une bataille, imaginez un soldat sans chaussures, sur un sol rocailleux, alors qu'il doit courir, il doit se protéger, il doit prendre des flèches, il doit tenir fort. S'il n'a pas de bons souliers, il n'y a rien qui se passe. Qu'est-ce que tu mets à tes pieds en ce moment? Que chaque jour, tu te dis, je suis bien disposé à vivre une vie qui est dans l'annonce de l'évangile de paix. Et aujourd'hui, je sais que peu importe où je vais aller, dans des terrains favorables ou pas, où je dois rencontrer quelqu'un et puis le confronter aujourd'hui parce qu'à la job, il a fait quelque chose où je dois aller voir mon boss en disant « Hey, je ne ferai plus ça parce que là, tu me demandes de travailler sur la table. » Non, mais ce matin, je vais mettre la bonne disposition puis je vais me tenir dans l'évangile de paix puis je vais annoncer. Il y a comme quelque chose de stable, de solide, que peu importe le terrain où j'avance, je suis confortable, je sais où je vais, je suis protégé. Si un soldat peut avoir les meilleures armes, mais s'il se fait toucher au pied, il ne peut plus avancer. Il y a comme quelque chose que ne minimise pas ou ne maximise pas certaines choses, certaines armures. Non, tu as besoin de toute l'armure. Tu ne trembleras pas quand l'ennemi sera devant toi. Parce qu'avec les bons souliers du zèle, de la bonne disposition, il y a comme quelque chose que tu tiens ferme. La sixième chose, c'est l'épée de l'esprit, qui peut-être, en fait, c'est la seule arme offensive. Toutes les autres, c'est défensive. Quand les flèches arrivent, quand les choses arrivent, l'armure, le casque et tout ça t'aident à être protégé. Mais la seule chose qui te permet de donner l'offensive, c'est l'épée de l'esprit qu'on dit la parole de Dieu, la Bible. Est-ce que tu connais ta Bible? Quelqu'un disait, un chrétien qui ne lit pas sa Bible et qui ne la connaît pas et qui ne la vit pas et qui ne la proclame pas est comme un soldat envoyé au front sans armes. T'essayes juste d'esquiver les balles qui arrivent, mais t'as aucune idée du combat et de ce que tu peux avoir comme force. Vous savez, Jésus, quand il a été tenté 3 fois par l'ennemi, hein, quand l'ennemi venait, il venait le faire douter de la vérité. Si tu es le Fils de Dieu, regarde, dans la Bible, c'est écrit que tu peux sauter, puis les anges viendront. Il prenait la vérité et il l'amenait en un semi-mensonge, semi-vérité, ce qui faisait que ça faisait un gros mensonge, et il essayait de faire douter Jésus sur qui il était. Comment Jésus a combattu? En 3 fois, il a repris la parole. Il est écrit, il est dit. La parole, si Jésus avait besoin de citer la parole, il était la parole incarnée. Mais si Jésus avait besoin de parler de la parole quand il y avait un combat spirituel, vous et moi, on a encore plus besoin de la connaître. Vous et moi, on a encore plus besoin d'être ancrés dedans et de dire, c'est pas juste mes feelings qui vont m'aider à combattre, non, c'est la parole de Dieu. Quand on viendra me dire, hey, toi, tu es un moins que rien, puis est-ce que Dieu est réel? Non, la parole de Dieu dit que, et il faut que tu connaisses ta parole. Ce n'est pas juste les pasteurs à la connaître et à l'enseigner, non. Nous, on est juste là pour vous dire, hey, allez à chaque jour chercher vos armes parce que votre combat, je ne peux pas le combattre, mais Dieu vous donne toutes les armes, à vous et à moi, pour que chacun, on puisse combattre et avoir la victoire. Est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement à notre Dieu? Aucune stratégie, aucun don, aucune créativité, aucune ingéniosité ne remplacera l'amour de Dieu pour ton combat spirituel. Et trop souvent, le chrétien, quand on parle de « as-tu les armes, as-tu les outils ?» il n'a aucune idée de ce qu'il y a. « Ouais, je prie. » Et puis, non, la prière fait aussi partie. Paul termine en disant « et continue à persévérer dans la prière et puis prie pour tous les saints, il y a quelque chose de fort. » Mais il y a les armes en arrière de ça qu'il faut que tu prennes. Parce que tu ne peux pas juste avancer avec le casque, il faut que tu avances avec toute l'armure. Chaque jour, lève-toi et dis, « Seigneur, je prends toutes les armes que tu me donnes. » Mais on n'est pas juste appelé à protéger ce qu'on a. On est appelé à avancer. Comme un joueur, je regardais le Super Bowl, dès qu'il reçoit le ballon, son objectif, ce n'est pas juste de dire, « Oh, je l'ai, je le garde, je le protège. » Non, parce qu'il y a une armée qui va arriver pour essayer de te le voler. Ce que Dieu t'a donné, ton appel, ta communion avec Dieu, l'ennemi va essayer de venir et puis te le voler. Il faut que toi, avec les armes, avec l'équipe, nous, l'Église, nous puissions tout faire en sorte pour bloquer, pour avancer, être avec notre casque et puis faire que ce ballon-là, il doit aller de l'autre côté pour marquer le but. Il faut que je cours jusqu'au bout pour pouvoir gagner et remporter la victoire. Comme sur une game de football. Est-ce qu'en ce moment, tu as reçu quelque chose et puis tu te dis, c'est parfait, j'ai juste à le protéger. Non. Avance, parce que si tu n'avances pas, tu vas te faire ramasser. Si tu n'avances pas, en fait, dans la vie chrétienne, tu recules. Quelqu'un dira, non, si je n'avance pas, je reste là. Non, comme dans des courants d'eau. Quand il y a beaucoup de courants, si le nageur n'essaye pas intentionnellement de remonter le courant, il se fait emporter par le courant. La vie est difficile, je ne vous l'apprends pas. Si tu t'assois sur ta vie, tu vas rapidement glisser. Ta chair va reprendre la place, tes mauvais désirs vont revenir. Si tu te laisses aller, tu te laisses couler. Par contre, la vie est difficile, mais Dieu est bon. Et là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc, peu importe ce que tu vis en ce moment, Dieu te dit, t'inquiète pas, fais-moi juste confiance, marche. Peu importe si tu penses fort ou pas fort, moi, je suis tout puissant. Et si tu marches en moi, tu marches dans ma victoire, tu es plus que vainqueur, tu n'as rien à craindre. Et tu vas marcher même avec la paix dans tes tempêtes, parce que peu importe ce qui se passe, si tu es avec moi, tu n'as rien à craindre. Mais il faut que tu puisses continuer à avancer. Même si tu n'as pas l'impression d'avancer dans ta vie spirituelle en ce moment, juste la volonté de dire, Seigneur, je veux avancer, fais déjà que tu avances. C'est Martin Luther King qui disait, si vous ne pouvez pas voler, alors courez. Si vous ne pouvez pas courir, alors marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, alors rampez. Mais quoi que vous fassiez, continuez d'avancer. Peu importe le combat que tu dis, man, c'est le pire combat de ma vie. Dieu te dit, t'inquiète pas, le pire combat de ta vie, je l'ai déjà remporté à la croix. Et si tu viens te ressourcer en moi, dans ma parole, avec un cœur repentant, en disant, Seigneur, ce n'est pas de mes forces, c'est des tiennes, je prends tout ce que tu as prévu pour moi, donne-moi les armes, t'inquiète pas, tu avanceras, même si tu penses que tu n'avances pas. Je vais appeler les musiciens qui vont venir, alors que je pensais à ça, je me disais, trop dans les dernières années, les chrétiens des fois les plus forts sont devenus les chrétiens qui ont arrêté de combattre. Et parfois, sans avoir de communion, communauté. La communion et la communauté ont toujours été là, peu importe si ça soit facile ou pas, mais l'intentionnalité de rester connecté et de rester en communion avec Dieu et avec ses frères et sœurs prenait deux fois plus d'efforts que quand on avait nos églises les dimanches. Vous êtes d'accord avec moi? Je l'ai vécu aussi. Je me suis pris un mur quand je me suis dit, hey, ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas d'église, je ne peux plus revenir puis louer avec... Mais à un moment donné, j'ai dit, hey, c'est pas parce que c'est moins confortable que je vais me laisser aller. Il faut que je combatte. Et des fois, ça va être plus difficile de combattre en ce moment. C'est une saison plus difficile, plus sèche. Mais j'ai besoin de combattre parce que si je ne combats pas, je vais perdre. Et le prix que Jésus a remporté à la croix est tellement fort que je ne peux pas me dire, oh non, mais regarde, je ferai ça. Je reviendrai quand ça sera plus confortable. Non, Jésus, il n'a pas attendu que ça soit confortable pour venir servir l'humanité et donner sa vie. Il t'appelle à toi aujourd'hui en disant, hey, peu importe ce que tu fais, protège ce que tu as reçu, protège ton cœur, protège ta relation avec moi, protège ta communion, protège ton appel, tes dons, mais avance, continue d'avancer malgré les situations difficiles. En ce moment, il y en a, vous vivez des situations où c'est la crise spirituelle. Vous dites, j'ai jamais été dans une saison autant de doutes, autant de combats, autant de tentations que j'arrive pas à avoir la victoire. J'ai l'impression de tomber comme même avant ma conversion, j'ai l'impression que j'étais même plus fort qu'aujourd'hui. Mais Dieu te dit, par tes propres forces, tu n'arriveras à rien, même pas à lever ton petit doigt. Par contre, si tu fais confiance dans ma force, dans ma parole, et si tu persévères, c'est pas juste, ah, je l'ai demandé, j'ai pas reçu, donc j'ai arrêté. Non, c'est persévérer dans la prière. Cours, continue, t'es tombé, c'est pas grave, relève-toi. Et tu retombes, tu te relèves. Et tu retombes, eh ben, tu te relèves. On s'en fout le nombre de fois que tu es tombé, il faut juste que tu te relèves en disant, Seigneur, je veux avancer parce que si ta vie est en moi, je vais avancer malgré les situations. Et tu me donnes tout ce que j'ai besoin pour accomplir ce que tu m'as demandé d'accomplir. Certains sont tellement sur le terrain depuis longtemps qu'ils en ont pris pour acquis que la victoire était là sans continuer à combattre. Vous connaissez toutes les règles, vous connaissez la parole, vous connaissez tout, vous pouvez citer les versets, même avec la référence. Puis là, c'est comme, ah ben, je suis correct. Il faut que tu fasses attention à ce que l'ennemi ne t'endorme pas sur ses genoux et te coupe ta force dans ton sommeil. Réveille-toi ce matin. Et je lisais ce texte et puis je me disais, Seigneur, réveille-moi ce matin. Aide-moi à ce que je sois prêt à combattre le bon combat de la foi. Est-ce qu'en ce moment, tu dois avancer et puis te dire, regarde, ça fait longtemps que j'y pense, mais il faut que je prenne un pas pour me baptiser? Est-ce qu'en ce moment, c'est que, oh ben, regarde, j'ai l'impression que je viens, je profite, mais en même temps, peut-être Dieu t'appelle à t'impliquer avec nous et à marcher, à combattre aussi pour les autres. Parce que Dieu ne te donne pas juste la victoire pour toi, il te donne la victoire pour les autres, pour que tu encourages des gens par ton témoignage, à dire, regardez, j'ai réussi à partir de là et j'en suis venu à là parce que Dieu m'a sauvé par grâce. Mes addictions sont brisées et maintenant je marche dans la liberté. C'est grâce à Jésus. Ton témoignage, les gens ont besoin de l'entendre. Les gens avec qui tu sers, les gens dans ta famille. Est-ce qu'en ce moment, tu es un passionné plus que jamais? Si ta réponse est non ou non, j'aimerais, tu es à la bonne place. Parce que celui qui s'approche de Dieu, Dieu s'approche de lui. Celui qui déverse son cœur devant Dieu, Dieu déverse son cœur en lui. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'église locale, qu'on a besoin de se confronter, se rappeler le côté où, hey, c'est pas par nos propres forces, c'est par la force de Dieu en nous. Et peu importe les circonstances, nous allons protéger ce que nous avons reçu et nous allons avancer. Samson, à la fin de sa vie, ce qui est incroyable, c'est qu'alors qu'il a vécu une vie rock'n'roll et puis il a terminé à tourner la meule qui était réservée pour les animaux. Puis il devait se dire, mais qu'est-ce que je fais là? J'étais appelé depuis ma naissance. Avant même ma naissance, j'étais appelé. J'étais consacré à l'Éternel et puis je devais accomplir une mission incroyable qui allait sauver un peuple. Puis je suis en train de tourner ce qu'un normalement un animal fait. Je suis tombé tellement bas. Mais alors que Samson est amené devant tout le peuple pour qu'il se... le peuple ennemi pour qu'il se moque de lui. Samson, à la fin de sa vie, va juste prier. Puis j'ai lu sa prière hier, c'était fort. Il disait, Éternel, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Et puis, il dit, donne-moi la force que j'avais juste une dernière fois pour glorifier ton nom. Mais cette prière-là m'a fait penser au brigand qui était à côté de Jésus, qui a dit, hey, souviens-toi de moi. Il avait vécu une vie tellement difficile. Il était au pire moment de sa vie. Il allait la perdre là, dans quelques instants. Mais il a prié la prière de repentance incroyable. Ce n'est pas une prière qu'on entend souvent, « Souviens-toi de moi », mais c'était comme un cri du cœur de dire, « Hé, regarde où j'en suis, j'ai besoin de toi, je t'appelle à l'aide. Tu es mon seul secours, mon refuge est juste en toi. Souviens-toi de moi où je suis. Parce que si tu te souviens de moi et que tu viens me sauver, je serai sauvé, peu importe où je suis. » Et alors que Samson a fait un acte incroyable, héroïque, la maison, vous le lirez, mais, Juges chapitre 16, il y a comme quelque chose que les ennemis ont été, Dieu a été vengé de ses ennemis, il y a comme quelque chose de fort qui a pris place. Je me disais, il faut que ce soit votre prière et la mienne chaque jour. Seigneur, souviens-toi de moi. Et en fait, je veux rappeler à mon âme que Jésus a déjà pris la victoire et que moi, je viens sous le sacrifice de Christ. Et l'Éternel se souvient de nous et nous voit par rapport au sacrifice de Jésus. Dans l'Ancien Testament, il faisait souvent appel selon la promesse qui a été faite à Abraham, Isaac, Jacob, ensuite David. Nous, la personne qui est notre référence, c'est Jésus-Christ. Si aujourd'hui, je veux prier pour qu'on puisse avoir une saine compréhension de que Christ a eu la victoire pour que nous puissions être libérés, être plus forts que n'importe quelle des attaques spirituelles que l'ennemi est en train d'abattre sur vous, votre foyer, votre couple, votre famille. Tout ce que vous pouvez vivre en ce moment, Dieu te dit, hey, confie-toi en moi, viens en moi et je suis ton refuge. Ton secours est en moi et tu n'as rien à craindre. Ce matin, j'aimerais vraiment faire un appel, alors que je termine, à ce que chacun d'entre nous, peu importe en ce moment si tu es dans la meilleure saison de ta vie spirituelle ou la pire, Dieu te dit, protège encore plus et avance encore plus loin. Reviens. Peut-être quelqu'un dit, moi, j'aimerais protéger ce que j'ai reçu, mais je suis pas encore réconcilié avec Dieu. J'aimerais te lancer l'invitation aujourd'hui, alors que on est à l'aube de l'automne 2021, et puis la vie reprend, et puis tout reprend. Ne reste pas là où tu étais pendant les dernières années. Reviens à une place où tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Mon secours est en toi, souviens-toi de moi. Je ne suis rien, mais toi, tu es tout. Et si moi, je suis en toi, je suis capable de tout surmonter. Et il n'y a aucune tentation qui sera au-delà de mes forces, parce que dans le nom de Jésus, il me donnera le pouvoir d'en sortir vainqueur. Est-ce qu'on pourrait fermer les yeux pour un instant, alors que je vais prier dans quelques instants? Mais je veux vraiment que, si quelqu'un dit aujourd'hui, j'aimerais juste comprendre ce que Dieu veut pour moi, et puis je comprends qu'il est puissant, je comprends qu'il est fort, mais j'ai l'impression de ne pas être dans la bonne équipe. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Et Dieu est un Dieu, oui, de victoire, mais il est un Dieu d'amour qui te dit, moi, je t'ai aimé avant même ta naissance. Si tu penses que Samson était destiné à quelque chose de grand, tu l'es tout autant. Parce que tu es appelé à être un enfant qui revient à la maison spirituelle. Et même si tu dis, je n'ai jamais fait partie de l'Église, ou je n'ai jamais été chrétien, mais Dieu te disait, moi, je te connaissais, j'avais destiné un plan pour toi avant même ta naissance. Alors maintenant, je t'appelle à revenir à la maison. Reviens. Et peu importe les pensées qui sont autour de toi aujourd'hui, je prie que le casque du salut soit sur tes pensées, sur ta tête. Et que tu dises, je prie que mon cœur aujourd'hui repentant, que la parole que j'ai reçue, que mon cœur soit une bonne terre, et que la parole puisse venir et que ce qui a été planté aujourd'hui puisse pousser, puisse être protégé, et que l'ennemi ne puisse pas venir voler ce qui a été planté aujourd'hui. Alors si c'est ton désir aujourd'hui de dire, regarde, j'ai encore beaucoup de questions, mais je veux croire que Jésus a donné sa vie pour me libérer de mes péchés, puis je veux venir avec repentance aujourd'hui en disant, Seigneur, je te demande pardon, souviens-toi de moi. Et si tu peux me sauver aujourd'hui, je veux être sauvé de cette vie, de mes addictions, de tout ce qui est en train de me rendre la mort en moi, dans mon âme. Je prie, Seigneur, maintenant, sauve-moi. Non seulement dans cette vie, mais pour l'éternité. La Bible dit que ton salut est à la croix. Il y a une assurance de ton salut qui a été donné par Jésus à la croix. Alors, si c'est ton désir aujourd'hui, si juste tu veux dire, Seigneur, je te donne mon cœur. Je veux tout abandonner à toi. Sois le roi de mon cœur, si jamais c'est ton désir, alors que tout le monde ferme les yeux, c'est vraiment entre toi et Dieu. Fais juste lever la main en disant, je veux être réconcilié avec Dieu aujourd'hui. Merci pour les mains qui se lèvent. Merci pour les mains qui se lèvent. Quelqu'un qui dit aujourd'hui, je reviens dans le combat et puis je reprends ma place.